There was music with drums and everything. And then these cats came through. They called themselves BCUC. They came with a brand new style.
Et merci de nous rejoindre sur Fréquence Mistral. Nous sommes en direct du théâtre Durance avec une émission spéciale concernant ces escapades 2018. Il y a François Malabave avec ses invités, pas mal de plateaux tout au long de cette heure d'émission. Et je vous donne la main, François.
Oui, merci Vincent. Bonjour à tous. Effectivement, c'est un grand moment que nous allons vivre très certainement. Invité ici même au théâtre Durance, et je remercie tout de suite l'organisation. Comme ça, c'est déjà fait et je n'oublierai pas, je les nommerai très certainement au cours de cette émission. J'ai le plaisir de vous présenter plusieurs invités qui vont intervenir et puis il y aura également des musiciens qui sont prévus lors de ce magnifique festival qui s'appelle les Escapades 2018. J'ai le plaisir de vous présenter le maire de Château-Arnoux qui nous accueille en sa commune. Bonjour Patrick Martellini.
Bonjour.
Vous êtes également premier vice-président de la chambre de l'agglomération de Digne-les-Bains, autrement dit Provence-Alpes agglomération, c'est bien ça ?
C'est ça.
Et vous connaissez bien le monde de la culture, vous avez été ici même à Château-Arnoux, adjoint de la culture pendant plusieurs années. Et à nos côtés aussi, Élodie Prel, qui est la directrice du Théâtre Durance. Bonjour Élodie, merci de nous accueillir chez vous.
Mais bonjour François, c'est toujours un plaisir.
Oui, et puis Ronan Le Péninque aussi, qui est en face de nous, Ronan qui est un administrateur particulier de votre théâtre puisqu'il est en charge très longtemps et depuis déjà pas mal de temps et souvent de la programmation musicale. Ronan, vous aurez votre mot à dire tout à l'heure. Bonjour.
Bonjour François.
Patrick Martellini, d'abord parler rapidement de ces escapades et puis de la place de la culture dans votre commune.
Alors, d'abord merci à Fréquence Mistral de venir passer un petit moment ici, un petit moment qui est certes un moment fort puisqu'il est le théâtre des escapades, mais qui est aussi le moment où le théâtre va petit à petit s'arrêter et puis se reposer un peu, notamment tous les techniciens, mais Élodie le dira bien mieux que moi tout à l'heure, pour un repos bien mérité, parce qu'il y a eu une magnifique saison et puis celle qui arrive sera du même gabarit, probablement toujours un petit peu mieux. Alors, la culture, ici, Château-Arnoux-Saint-Auban, on a cette chance. La culture, ça a toujours été un endroit ici, alors par la commune, mais aussi par la communauté de communes, un endroit où il s'est toujours passé quelque chose. Vous vous souvenez des magnifiques soirées à la ferme. Il y a eu des moments très forts, il y a eu des artistes de renommée internationale qui sont venus ici, mais c'est pas un hasard. Cette culture, elle s'est fondée, elle a trouvé ses fondations dans l'histoire de la commune et plus largement du territoire et autour de lui. Et quelque part, il y avait d'abord une culture à trouver auprès des différentes nationalités qui ont travaillé à l'usine. Une culture à trouver ou une culture à partager, puisque chacun venait de différents pays, de différentes nationalités, avec une approche, une vision de la vie, du monde qui lui était propre. Donc déjà, par ce partage, par cette solidarité qu'il y avait derrière, il y avait effectivement une culture à partager. Et il y avait des réflexions à mener.
Ce qui veut dire que cette diversité de population qui est historique ici à Saint-Auban notamment et à Château-Arnoux, plus d'une vingtaine de nationalités différentes, ça pourrait expliquer la programmation diversifiée du Théâtre Durance.
Je ne sais pas si ça, là, je laisserai le soin à ceux dont c'est le métier. Mais ça peut expliquer, en tout cas, quelle a été la volonté politique des élus de l'époque et de mon prédécesseur en particulier, José Escanès, de faire ce théâtre, de faire cet endroit où nous sommes ici. Parce que il disait que, justement, dans une cité ouvrière, avec toutes les personnes qui composaient cette cité et toutes ces nationalités dont vous venez de parler, il était important que la culture soit faite pour tous. Et d'ailleurs, moi, j'ai repris aussi à mon compte, et depuis 2008, cette idée de culture pour tous.
C'est un endroit aussi, le Théâtre du Rance, qui est juste à côté d'un centre culturel magnifique avec
une action
importante, une médiathèque également. Donc on sent sur ce carrefour Moyenne du Rance une volonté culturelle importante, culturelle et populaire en même temps. C'est ce que je voulais dire aussi tout à l'heure en parlant de ce passé ouvrier de votre ville et d'une partie de votre ville puisque c'est Saint-Auban. La programmation qui se fait ici est assez particulière. Vous avez eu la chance, il y a quelques jours, d'accueillir une des 6 manifestations de la fête de la musique qui a été programmée par le ministère de la Culture avec un très beau duo, Amadou et Mariam, qui sont venus. C'est une chance exceptionnelle pour votre commune. Mais je me souviens aussi de la fête de la jeunesse. Ça ne nous rajeunit pas, Patrick Martellini.
C'est vrai.
C'était en 86, me semble-t-il.
C'était en 86 et j'étais un des adjoints de José Ascanès à cette époque-là, et on avait fait la fête de la jeunesse. Je dirais que c'est des souvenirs assez extraordinaires, puisque je me souviens de moments de panique, d'ailleurs, où on avait peur d'être totalement débordé par ce qui se passait. Il y avait du monde qui arrivait de toutes parts, et il y avait des scènes partout autour de Château-Arnoux-Saint-Auban. Mais quel magnifique succès à la sortie.
Et puis quel souvenir on en garde, c'est ça
vrai,
qui est important.
C'est vrai, mais je pense que c'est ça qui a fait les fondations de tout ce qui se passe ici. Et vous savez, vous parlez de ce lieu. Ce lieu qui est où on retrouve quand même 3 salles de cinéma, une médiathèque, une salle d'exposition, un théâtre. Ce lieu, c'est quand même devenu aujourd'hui, à la communauté d'agglomération, un lieu extrêmement important. Parce que c'est un lieu de diffusion culturelle énorme. Mais je pense que pour nous, c'est aussi un outil de développement local énorme aussi. Parce que le développement local, c'est pas comme certains l'imaginent, que l'économie. On le voit bien ici, on est en train, je pense, de réussir le mariage entre l'industrie, entre la culture, entre le sport, entre le tourisme, puisqu'il y a de gros projets ici. Et je pense que c'est tout ça qui fait que on a un véritable outil de développement local. Il y a du personnel et des compétences, et forcément, tout ce qui est programmation, on ressent. Et je vous fais une super transition pour la suite.
Oui, merci beaucoup Patrick Martellini. Mais vous prendrez ma place si vous voulez bien.
Avec plaisir François. Avec plaisir.
Élodie Prel, justement, la directrice du Théâtre du Rance, qui n'a pas connu cette période particulière à laquelle nous nous référions sur la fête de la jeunesse en 86. Vous avez apporté votre dynamique quand même il y a une dizaine d'années, un peu plus de 10 ans.
Oh, il n'y a que 4 ans.
Que 4 ans. Non, c'est vrai que c'était Robert Pasquier qui avait continué cette dynamique, aussi une personnalité emblématique du Carrefour ici même.
Bien sûr.
Et vous, Élodie, donc vous continuez ça avec votre touche personnelle qui permet d'avoir une ouverture particulière et évidemment une programmation particulière. On passera la parole peut-être tout à l'heure à Ronan, mais vous êtes à la manœuvre et au croisement de toutes ces dynamiques, et en même temps vous devez aussi être une gestionnaire, et je suppose que Patrick Martellini est très attentif à la gestion de son théâtre.
Alors je n'ai pas connu cette époque évidemment, puisque je suis arrivée que il y a 4 ans, pas encore tout à fait d'ailleurs, mais forcément en arrivant sur ce territoire on reçoit cette histoire en héritage. Un héritage comme un joli paquet cadeau qui est posé sur le bureau, et voilà, et on arrive, moi je suis arrivée avec beaucoup d'humilité aussi sur ce territoire que je ne connaissais pas bien, et donc beaucoup dans l'écoute pour essayer de comprendre ce qui s'était fait, où on en était, enfin qu'est-ce qui faisait qu'on en était arrivé à cette situation-là, et notamment de ce magnifique théâtre sur une commune de 5000 habitants, qui est quand même, moi je l'ai dit en arrivant, extraordinaire, dans coupant les deux mots, c'est-à-dire c'est hors du commun, et montrer un territoire qui était très marqué par une audace folle, avec des techniciens et des élus, qui ont cru, qui l'ont porté, qui se sont battus, parce que je pense que ça a dû être très très compliqué. Donc c'est assez, je vais pas dire facile, mais en tout cas c'est quand même un joli terrain quand on arrive à la direction du Théâtre du Rance. Après j'arrive avec mon parcours, avec ce que je suis, avec ce que je défends. Et je pense que si c'est mon projet qui a été choisi, ce n'est pas non plus un hasard. Non pas qu'il était le meilleur, loin de là, mais je pense qu'il était le plus adéquat et le plus juste à ce moment-là.
Il correspondait bien au territoire également.
Il correspondait au territoire parce que, par ailleurs, j'ai travaillé dans d'autres contrées sur vraiment le maillage territorial et la structuration du territoire par la culture et la création artistique, par effectivement un travail approfondi avec des élus pour justement faire passer ce message que la culture n'est absolument pas, en tout cas que l'art et les lieux de théâtre ne sont pas des tours d'ivoire, mais des espaces de développement incroyables. Après ce qui s'y tricote à l'intérieur, évidemment, c'est notre projet artistique. Mais voilà, je pense que c'était important d'arriver sur ce territoire avec les yeux et les oreilles très très grands ouverts, et voilà, de renifler, de sentir, et en même temps d'affirmer quelque chose de fort. Moi, ce que j'affirme depuis que je travaille et au fil de mes expériences, et ça se rejoint, c'est effectivement d'ouvrir ces lieux de culture au plus grand nombre. L'ouverture, elle est à plein de niveaux, elle est artistique, voilà. Elle est économique aussi, parce qu'on sait que le spectacle a un prix et que certains n'ont pas les moyens d'y accéder, mais elle est surtout souvent et très souvent symbolique. C'est-à-dire que beaucoup de gens, parce qu'ils n'ont pas été confrontés aux artistes ou aux œuvres dans leur plus jeune enfance, n'ont pas eu l'habitude de ça, pensent que ça n'est pas fait pour eux. Moi, je suis convaincue, et je pense que l'équipe aussi, que tout le monde peut être ému, touché, bouleversé parfois par une confrontation à une œuvre. Encore faut-il le faire une première fois, pousser la porte d'un théâtre. Alors évidemment celui du Théâtre du Rance, mais comme je le dis, on n'est pas propriétaire des publics, et donc il faut juste pousser la porte d'un théâtre, quel qu'il soit.
Alors évidemment, pour illustrer un petit peu les propos que vous venez de donner, le Théâtre du Rance qui va ouvrir la porte, mais dans l'autre sens, qui va sortir ce soir par exemple, et qui va présenter une programmation, et on reviendra sur la programmation des escapades dans un instant, en extérieur, programmation gratuite, donc là aussi on retrouve ce côté populaire important, et qui va toucher le public. Je reviens à la fête de la musique avec Amadou et Mariam, mais aussi des musiciens locaux qui se sont produits. Et quels musiciens locaux, quand je pense à Alain Solaire ou à d'autres personnes qui ont construit aussi des projets culturels ici sur ce territoire. Il y a toute une mise en valeur de cette action. Vous avez apporté votre patte, Élodie.
Ben écoutez, j'entends. Après, mais c'est pas de la fausse modestie. Moi, je ne sais pas. Je me rends pas compte. Mais
nous, on le voit de l'extérieur, peut-être, vous savez. Et il y a d'autres endroits dont je tairai le nom qui ont moins d'ambition en termes culturels et qui ont moins de réussite en termes de popularité des spectacles et en tout cas de présentation et d'offres culturelles.
En tout cas, moi, une chose qui est importante pour nous, c'est que. En fait, on est dans l'écriture d'une histoire avec la population et le territoire.
Et c'est la liaison avec ce que disait Patrick Martelly.
Et cette histoire, elle est à la fois artistique par la programmation, mais la programmation, je le dis souvent, c'est une écriture. Alors, peut-être que nous, on envoie les liens ou les correspondances, mais il y a un rythme. On commence, on relance, on respire, on prend des risques, on assoit. Enfin, c'est pas remplir des cases, une programmation, c'est vraiment quelque chose qui se construit, qui s'écrit, ou comme un metteur en scène qui voilà va rassembler plusieurs compétences pour monter un spectacle. Ben nous, on rassemble des propos, des esthétiques, des formats, voilà, et on écrit une saison. De fait, chaque saison s'écrit différemment chaque année. Mais on écrit une histoire avec la population. Moi, j'y crois beaucoup. C'est-à-dire, c'est une histoire d'adhésion. Moi, en arrivant, c'est vrai que je me suis dit, il faut vraiment que les gens s'approprient cet outil comme étant le leur, parce qu'il leur appartient. On est financé par l'argent public, on est financé par l'impôt, donc c'est important que les habitants se disent « mais cet outil m'appartient aussi », avec aussi une vraie mission de service public qui est de ne pas forcément amener ce que les gens connaissent, mais de travailler sur le désir de curiosité pour rencontrer des choses qu'on ne connaît pas. Derrière, il y a évidemment un acte, j'allais dire, politique au sens citoyen du terme très fort, qui est si on est curieux, si on est ouvert, si on va vers ce qu'on ne connaît pas, peut-être que demain, on évitera un certain nombre de, de faits de société qui sont, pour moi en tout cas, pas tout à fait juste ou reluisant en ce moment. Mais ça c'est un point de vue personnel, mais je pense qu'il est vraiment partagé. Et ce qui est important, c'est finalement d'amener tout un chacun à être acteur, moteur de sa propre vie et d'une vie collective. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais voilà.
On arrive à saisir les choses importantes, et effectivement, c'est à l'image un petit peu de ces escapades qui vont se dérouler, qui vont démarrer tout à l'heure, avec BCUC qu'on a écouté juste avant et que notre ami Vincent a mis sur la platine. Avant de d'écouter Ahmad Kilo et puis les musiciens qui l'entourent, il y a Fred Martin qui nous a rejoint. Bonjour Fred.
Bonjour tout le monde.
Voilà, il arrive un petit peu en retard,
désolé.
C'est pas très grave. Et il est président de l'association Odyssée, c'est bien ça ?
Non, c'est devenu l'association Théâtre du Rance.
Oh là là, je suis encore dans des mauvais schémas, oui.
Odyssée, c'est de l'historique, c'était la naissance de tout. Et même avant, il y avait le Festi Jazz, donc il y avait une autre association.
Et la CDC.
Et la CDC.
Oh là là, bon, arrêtez. Il y avait le Moyen-Âge aussi.
Voilà, il y avait de l'historique. On n'est pas, voilà. Il y a une transformation qui est celle-là. On suit le Théâtre du Rance dans son évolution. Et en même temps, on fait partie de la communauté d'agglomération. Et le Théâtre du Rance en fait partie pleinement.
Alors, ça veut dire aussi que la société civile, par le biais de citoyens, peut agir sur une politique culturelle.
Ah, on est tout à fait dans l'air du temps, on va dire, hein, puisque c'est ce qui se passe un peu à l'échelon national, on va dire. Hein. Eh bien, nous, on est une représentation de cela. Hein. On vient tous de la société civile, et l'association est née dans la société civile, et elle en fait partie pleinement, elle joue pleinement son rôle maintenant, toujours dans le même esprit.
Donc avec toujours ce côté redevable, comme disait Elodie tout à l'heure, par rapport au public, de dire c'est de l'argent public qui est investi ici et il faut que ça retourne aux personnes et donc au public qui vient, et comme par exemple ce soir, qui va venir assister à un concert gratuit.
Complètement, hein, nous sommes là pour exercer cette vigilance, ce qu'on nous donne de l'État, de la région, du départ, avec tout ce qu'on nous donne.
Donc c'est vrai que l'action et l'éducation culturelle est ô combien importante dans ces temps un petit peu troubles qu'on connaît, avec notamment les menaces terroristes, et de reconnaître les qualités des musiciens. Ce que vous faites fort bien ici, puisque des liens ont été tissés avec plusieurs artistes, je pense par exemple à la compagnie du Pas de l'Oiseau, à Thierry Ballas, et puis à d'autres artistes qui viennent régulièrement ici même pour présenter leur spectacle, pour... évidemment profiter d'une résidence d'artistes aussi, c'est important, pour produire aussi des disques. Il y a un studio d'enregistrement ici même au théâtre, et vous allez accueillir en plus très bientôt, c'est-à-dire très exactement demain, des artistes de grande qualité. Je pense à Mamani Keita, qui est une chanteuse malienne qui mélange bien le jazz et la musique africaine, Mike Ladd également, et à Arad Kilo. Et je vous propose de faire une première pause musicale. Et on va écouter justement un des extraits du dernier album d'Arad Kilo. Et ça s'appelle tout simplement American Juju. Et on se retrouve tout de suite après.
And the bad man breaks with a smile on his face. Model T and Hambone, Tommy Gun Radio, blood on the line when the gang hits. Ties gather up this dust, the devil is dust, and he's swirling the world when the smallest size. Yeah. Rise up, make him feel this heat. Livin' up, make him feel this heat. Give birth to Gregory of the planet, juju from a bottle, cheap blood from bones. How you give birth and not be bitter when you gotta open up for the Rolling Stones? Happy bastards, no said already, been dead already, but they still feel pain. Captain of the backhand, tragedy of all men, oppressed, be depressed at the drop of a dime. Jerusalem to Salem.
violence is the base of the ultimate crime. All I know is we losing our minds, and I know we're running out of time. Say, love and love, make her feel that heat. Rise up, make her feel that heat. Love and love, make her feel that heat. Bush, blood on the name. When the soul is stained, everybody get ready to get let off the hook. But it taking any man to hook them up again. But we already been down that road. Don't need to go there no more. Walking around with nothing to do. Walking around like we gonna go to.
Ah, c'est épuisant ça.
Retour en plateau. On est donc retourné à Château Arnoux pour cette émission en direct du théâtre du Rance. Et on a le plaisir d'accueillir un des musiciens de l'ensemble de ceux qui marchent debout. Donc c'est celui qui marche debout. Et là, cette fois-ci, il est assis. Il s'agit de Roufi qui joue du soudaphone. Bonjour Roufi.
Bonjour François.
Avant la prestation de ce soir. Alors, première question très simple. Qu'est-ce que c'est que le soudaphone ?
Alors, le soudaphone est un très gros cuivre qui a été inventé par John Philip Sousa, qui est le créateur des fanfares américaines, des marching bands. Et lui, il voulait un instrument qui ne sonne pas comme les licons et qui sonne comme le tuba, mais qui soit transportable. Et donc, il a fait plusieurs essais, au départ avec un pavillon droit, on dirait un déguisement de locomotive, et après, il a pensé à courber le pavillon, et pour que le son porte plus, quoi, il soit plus à l'horizontale.
C'est vous qui êtes en charge des basses, généralement?
Tout à fait.
Et avec un ensemble de combien de cuivres, et puis combien de musiciens, pour ceux qui marchent debout?
Alors, oui, c'est une petite blague dans le groupe, on aime bien blaguer entre les musiciens et les batteurs, donc c'est... Donc, si on compte en musiciens et batteurs, évidemment, la particularité du groupe, c'est d'avoir la batterie séparée en deux. Donc, on a deux batteurs, Caisse Claire, Grosse Caisse, qui est la base du groupe, qui est vraiment un espèce de batteur hybride qui n'existerait pas normalement. Et après, il y a trois cuivres, saxophone, trompette, trombone. Et un banjo qui est la particularité de ceux qui marchent debout pour une fanfare, puisque en fait c'est un banjo qui est accordé exactement comme dans les années 30. Il a même un banjo électrique l'histoire du banjo, elle est liée aussi à l'histoire du groupe, c'est-à-dire que si on n'avait pas pu avoir un banjo, s'il n'avait pas pensé à aller chercher un vrai banjo de l'époque, à l'époque, en fait, dans les années 30, on n'a pas encore l'amplification, donc on cherche à jouer le plus fort possible, donc si on a envie de faire des accords, on va se servir d'un banjo, et donc qui est accordé en fait très aigu, puisque maintenant on a souvent l'habitude d'écouter des banjos qui sont en fait des guitaristes qui jouent sur un banjo accordé en banjo. Donc ça, c'est très percussif, et c'était l'instrument le plus sonore.
Il est électrifié quand vous marchez debout, en fait, c'est très étonnant
puisque quand l'amplification est arrivée, ils ont eu l'idée de sonoriser, en fait chez Gibson, ils ont fait 80 banjos électriques, et il en a un.
Donc il en reste 79 dans le monde, c'est pas mal.
Ça c'est très étonnant. Il a un micro qui est le Charlie Christian, qui est le premier micro, qui est un truc énorme. Ça c'est un son, vous allez voir, c'est un son qui est vraiment particulier.
Vous êtes en concert ce soir à Château Arnoux Saint-Auban, donc dans pas longtemps. Comment vous appréhendez une scène? Alors vous pouvez pas marcher normalement. Vous bougez pas?
Alors là, je...
Une fanfare ambulatoire comme la vôtre, ceux qui marchent debout.
Ah oui, non, c'est, en effet,
tout d'un
oui,
coup, vous allez être statique sur une scène.
Non, c'est justement, en fait, ça a été notre... On a été brièvement signé chez EMI. La première chose qu'on leur a fait acheter, c'était des HF, qui était extrêmement cher à l'époque, en fait, qui était un gros investissement pour justement pouvoir retrouver la liberté, le contact avec le public, ce genre de choses. Donc, il a fallu travailler un peu parce qu'en fait, au niveau... En fait, de l'amplification, c'est quand même pas évident de jouer devant son système. Depuis le Grateful Dead, en fait, on est avec les cuivres, c'est quand même différent. C'est pas le même style de micro. Et donc, il a fallu apprendre à gérer le son, en fait, et réussir à trouver une façon de jouer aussi nous, en fait, intellectuellement, de faire la démarche d'arriver à jouer quelque chose de cohérent. Même si nous, ce qu'on entend n'est pas tout à fait, est toujours un tout petit peu décalé.
Vous avez parlé tout à l'heure des marching bands des américains de Sousa, notamment. Vous avez une culture fanfare, orchestre champêtre. Comment ça se passe au niveau de votre groupe? Comment vous êtes réunis?
En fait, la base du groupe, c'était des gens qui faisaient du rock alternatif, mais qui avaient envie justement de quelque chose de plus souple, et des gens qui venaient de la fanfare de la rue, fanfare, beaux-arts, étudiantes, ce genre de choses, et qui avaient eux envie de jouer une musique différente de ce qui se jouait à l'époque, en fait, en fanfare étudiante ou amateur. Donc sur un répertoire déjà différent au niveau des reprises et puis avec la volonté d'écrire ses propres musiques.
La possibilité aussi d'adapter justement des rythmes différents, c'est-à-dire faire du funk par exemple avec des instruments avec des cuivres.
Oui, c'est tout à fait ça. En fait, on était reparti à la base. À ce moment-là, c'est vraiment à Paris, tout se passe dans les bistrots. Paris n'est pas encore ce qu'il est, et donc il y a des bistrots partout. Nous, on avait des tournées de bistrots qui avaient des caves et on a fait la tournée de tous les bistrots kabyles, comme ça on avait des vraies dates et puis on amenait du monde qu'on faisait danser puisqu'on avait on jouait fort. C'est pour ça qu'on avait choisi ces instruments. On voulait faire une mini fanfare, quelque chose de très efficace qui tenait dans une voiture. À la base on était 5 et puis après en fait on s'est dit que c'était trop c'était vraiment plaisant de pouvoir justement bouger, avoir se retrouver la mobilité en fait.
Alors Roufi, il y a Ronan Le Pennec, je ne sais pas si vous connaissez, mais Ronan est en charge de la programmation ici même au Théâtre
du Breton, un Breton exilé.
Eh oui. Ronan,
pas du tout.
Comment
Moi j'habite en Bretagne, donc ça fait rire.
Comment est-ce que s'établit la programmation et comment on fait pour en programmer justement ceux qui marchent debout ici en Provence au mois de juillet?
Alors, déjà, François, je voulais apporter une petite précision. C'est, on va dire que j'ai collaboré avec Elodie sur la programmation. C'est-à-dire que je ne suis pas programmateur du Festival des Escapades. Du coup, c'est un travail, c'est vraiment une collaboration qu'on a eue ensemble.
Travail d'équipe.
Voilà, parce que moi, moi, ça fait 3 ans que je suis au Théâtre Durance. Avant ça, j'ai travaillé une dizaine d'années dans le secteur de la musique, vraiment. Donc, disons que j'ai une bonne connaissance de ce secteur-là. Et du coup, je pense qu'Elodie en profite également. Et donc, par rapport à ceux qui marchent debout, ceux qui marchent debout, après, nous, ça nous parle, en fait. C'est-à-dire, c'est quand même vous avez quand même eu la notoriété depuis les années 90. Moi, j'en avais parlé en conférence de presse, notamment. Vous avez été repéré par Cédric Lapiche à un moment.
Oui, on avait fait la musique le générique du film. Chacun cherche son chat. Ouais.
Voilà, et du coup, ça a été un peu... Puis à un moment, vous étiez signé aussi sur une major.
Oui, c'était
pour un
très
album.
Bref.
Ouais. Donc voilà, mais en tout cas, ceux qui marchent debout, peut-être plus pour Elodie que pour moi, mais il y a un côté aussi, ça nous rappelle. Après, moi, le milieu des fanfares, par exemple, vous êtes très proche aussi des fils de Tepu.
Oui, c'est des copains. En fait, à la base, on commence par en fait, on s'appelait les fils de Krao.
Ouais.
Et il y avait un autre groupe en France du côté de Nancy qui s'appelait aussi les fils de Krao, qui eux faisaient du métal industriel habillé en peau de bête en tapant sur des enclumes. Et en fait, on trouvait ça hyper rock'n'roll à l'époque. Deux groupes qui avaient le même nom en France, qui faisaient deux trucs totalement différents. Et en fait, ils ont commencé par... D'un coup, ils ont eu un impresario qui a déposé le nom. Et donc, on a sorti notre première cassette, puisque notre premier... en fait, on faisait des manches, donc il fallait avoir une cassette à vendre. Dans notre première cassette, en fait, on avait mis les fils d'eux et puis quatre petits carrés. Et donc, c'est un copain qui a trouvé le nom des fils de Tepu, en fait, avec les quatre petits carrés, voilà.
On arrive à connaître quand même les dessous des cartes, hein, avec les musiciens et avec les programmateurs, ou en tout cas les personnes qui s'occupent de la programmation. La programmation des escapades, justement, tout à l'heure, il y a BCUC qui va démarrer les hostilités, entre guillemets. Ils viennent d'Afrique du Sud, c'est ça ?
Oui, tout à fait.
Et donc, c'est un groupe emblématique qui aura certainement une volonté de dire des choses, parce que c'est un pays qui bouge et qui a malheureusement connu des heures très très sombres. L'Afrique du Sud, on va en reparler aussi à la fin de votre festival, si je crois bien, ou en tout cas c'est Lakuta qui va faire une musique aussi très colorée, plutôt africaine.
Bah, disons que la chanteuse de Lakuta est d'origine sud-africaine, mais tanzanienne.
Donc c'est pas très très loin, enfin pour nous en tout cas, vu de France c'est à côté, voilà. Quoi, hein, pour les gens qui sont pas très forts en géographie comme moi.
Après il y a quand même une similitude aussi entre ces deux groupes, c'est-à-dire BCUC et Lakuta, c'est sur le... Parce que Lakuta c'est assez paradoxal, c'est musique plus festive que BCUC. Mais avec un message vraiment, un vrai message politique en fait, sur les conditions des femmes en Afrique, etc. Donc c'est en fait eux, je pense qu'ils ont envie de proposer une musique accessible, mais à la fois avec des paroles engagées. Et c'est aussi le cas de BC aussi.
Les conditions des femmes en Afrique et des enfants notamment, c'est un peu la question qui est mise en œuvre en avant par Mameni Keita notamment depuis plusieurs années. Je pense à un morceau qu'elle a fait avec Marc Minnelli qui s'appelle « Aidons les enfants du monde », un morceau important et qui a toute sa valeur encore à l'heure actuelle. Mameni Keita qui sera sur scène avec Arad Kilo et Mike Ladd, ce sera demain.
Tout à fait. Donc là, ce sera la première partie donc de la journée de demain. Arad Kilo, du coup, c'est un groupe qui nous vient de la région parisienne. Et du coup, donc ils viennent de sortir un nouvel album qui s'appelle Vision of Selam. Et pour l'occasion, en fait, ils ont invité... c'était le cas aussi sur leur album d'avant. Ils avaient invité pas mal de chanteurs à collaborer, etc. Et là, en fait, ça s'est très bien passé, l'aventure avec Mike Ladd et Mameni Keita. Et du coup, ils leur ont proposé de faire la tournée avec eux.
Et faire une tournée ensemble, c'est une bonne chose, avec en plus des morceaux gravés ensemble sur disque. Roufi, avec votre groupe, là, Ceux qui marchent debout, vous aimez aussi, vous aussi, les rencontres avec d'autres musiciens, avec d'autres univers?
En fait, on a eu la chance de jouer dans 32 pays. Et à chaque fois de faire des collaborations, de faire des choses comme ça. Alors justement, on avait joué en Afrique du Sud, mais on était sur le réseau jazz, parce qu'en fait, il y a un vrai réseau jazz qui est pas du tout ce qu'on imagine, en fait, avec des espèces de gigantesques concerts et puis des espèces d'ambiance musicale. Enfin, en fait, c'est très particulier musicalement l'Afrique du Sud. Et il y avait un copain qui avait trouvé, il dit c'est un peu comme si Grover Washington n'était pas mort. Et un espèce de truc très cool comme ça, mais qui groove bien, avec des très très bons cuivres, alors particulièrement, et plutôt des percus en retrait, ce qui est pas du tout le cas dans le reste de
l'Afrique.
Ouais. Mais oui, on a joué pas mal en Afrique. À chaque fois, on a joué avec on a fait des collaborations. On a eu la chance de jouer à Madagascar. On a eu la chance de buffer avec Raku de Fra. Je sais pas si ça dit quelque chose, mais enfin, c'était un monument vivant de la culture de malgache. Voilà,
En tant que musicien, vous avez une espèce de gourmandise de rencontres comme ça avec d'autres acteurs culturels et notamment des musiciens, des échanges au niveau planétaire, on peut le dire.
Hein, c'est indispensable. Déjà, de toute façon, si on rencontre des musiciens, entre musiciens, on s'entend pas mal. Enfin, c'est une espèce de... J'ai un ami qui dit le musicien, c'est quelqu'un qui sait que le paradis est ici. Donc, les musiciens, en général, ils ont les bons plans, ils savent où il faut aller, ils sont, voilà, il faut rencontrer des musiciens, déjà, pour savoir appréhender un peu la ville, et puis après, s'ils sont bons, c'est toujours fascinant.
La musique, c'est un langage universel, quelque part?
Complètement.
Ouais.
Oui, complètement. On a eu, par exemple, on a joué en Éthiopie, il y a, On a joué, puis il y a Moulatou Estadke qui est venu nous voir. Il était à Addis Abeba et il avait monté une école de jazz. Donc il nous a demandé de venir le lendemain jouer dans son école. Et le soir même, on était sortis, on était allé voir les cabarets, ce qui jouait dans les cabarets à Addis Abeba. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait trois musiciens et puis les chanteurs. Il y avait une espèce de rue avec des cabarets et les chanteurs passaient par les cours et donc allaient jouer dans tous les cabarets parce qu'il y avait des gens du nord, du sud, de l'est, de l'ouest et les musiciens ne changeaient pas. Eux, ils étaient installés et ils désaccordaient, ils changeaient l'accordage de leurs instruments au fur et à mesure que les gens arrivaient avec leur gamme. Et là, le musicien, il est là pour que les gens soient tous ensemble. Dans l'hybridation de la musique, qui est quelque chose qui nous fascine, puisqu'on est vraiment là-dessus dans la musique, on cherche un espèce de concept créole, mais on étend le créole, en fait, on l'étend jusqu'à la Nouvelle-Orléans, et enfin, on va vraiment aller chercher la totalité de la zone, et même en Afrique, où en fait, il y a eu des retours forcément de musique. Donc, ça nous intéresse énormément. Mais disons que j'ai une théorie sur le sujet, c'est-à-dire que si vous imaginez une population où il y a 30% d'une certaine ethnie, 70% d'une autre, qui ont forcément des cultures différentes, s'il y a un musicien qui fait un concert, lui, il a envie d'avoir 100% des gens avec lui. Et donc, il va forcément essayer, c'est ceux-là qu'il va essayer d'attraper, c'est ceux qui sont pas encore dans le truc, qui vont... Vous voyez ce que je veux dire?
On est dans la dynamique de séduction, en quelque sorte.
Exactement.
C'est la même chose pour
en fait,
les danseurs, par exemple.
Voilà, il faut servir du pire défaut des musiciens.
En fait. Et quand vous dites que en fonction de la personne ou du milieu dans lequel on joue, on va désaccorder sa guitare ou son instrument pour pouvoir être en accord, justement, avec ça, c'est peut-être une manière quelque part aussi de lutter contre la mondialisation.
Ah oui, non, les gammes, c'est quelque chose. Non, en effet, on est en train de tout uniformiser.
Plutôt que de jouer comme on joue à Nashville ou à Memphis ou comme on joue à la Nouvelle-Orléans, eh bien de jouer comme on joue chez soi. Point final. C'est aussi simple que ça.
Après, en fait, jouer comme on joue chez soi, il y avait une compagnie que j'adorais qui s'appelait la compagnie Vieux Sens, qui était du côté d'Agen, et c'était des gens qui jouaient tambour et fifre. Alors tambour et fifre, je sais pas si vous voyez un peu le truc.
Ça nous dit beaucoup de choses. Hein. C'est le galoubé et le tambourin, par exemple.
Donc vous avez quand même
Le fife and drum pour les Américains ou les Anglais.
Et donc vous avez quand même une capacité de volume sonore, voire de nuisance. On peut le dire des fois parce que quand c'est pas agréable. Et je tombe sur ce groupe de tambour et fifre. Et au bout d'un moment, je me rends à l'évidence, ça groove. Ça groovait vraiment, c'était groovy. Il n'arrêtait pas de jouer sur des effets de mix, c'est-à-dire que d'un coup, ça passait, les tambourins, ils ont une espèce de tambour avec un ton énorme, enfin bon, un truc quand même assez incroyable, et ça reste, c'est obsédant, ça s'arrête, c'est les fifres qui reprennent, exactement des effets techno, on va couper les basses, mettre les aigus, etc. En fait, tous les effets de trance qu'en fait on a maintenant, ils sont. Et donc après j'ai discuté avec eux, et c'est des gens qui venaient de la musique traditionnelle de leur coin, lot-et-garonnaise, et puis ils avaient appris parce que, en gros, en 1900, il y a quelqu'un très bien intentionné qui s'est dit, oulala, ces morceaux sont en train de se perdre, je vais les écrire. Et donc ce gars, en fait, l'enfer est pavé de bonnes intentions, il écrit ces morceaux-là. Et à partir de ce moment-là, en fait, l'histoire est totalement figée et on perd complètement la réalité du morceau. C'est-à-dire que là, par exemple, on les voyait, de temps en temps, il y avait un gars au tambour qui partait, qui faisait un solo. Ben oui, évidemment, si on réfléchit bien, le gars, il est allé jouer dans le village d'à côté, il a un mariage ou quelque chose, il faut qu'il se fasse remarquer pour manger à l'œil, boire à l'œil, éventuellement trouver une fille. Donc oui, il y a des solos dans la musique, c'est tellement évident. Et eux, ils l'avaient découvert parce que il y avait un très bon, en fait, une des premières SMAC à Agen, qui est le Florida. Qui les avait repérés parce qu'ils se sont dit, tiens, ils ont l'air un peu plus ouverts, et qu'ils ont fait jouer avec des batucadas. Et d'un coup, en fait, ils ont pu, ils sont allés se frotter à tous les, une culture, c'est ça, c'est quand on a assez de culture pour pouvoir comparer ce qu'on a.
Le Sud-Ouest et le Brésil mélangés, et ça fait un beau mélange.
Ben je pense, j'ai pas entendu. En plus, oui, ça me laissait assez rêveur.
Ça doit être assez étonnant. Renan, il y a d'autres groupes qui vous ont frappé l'oreille de manière très très correcte et qui seront programmés prochainement ici à Château avec Elodie, bien sûr.
Là, en l'occurrence, on n'a pas encore travaillé sur la prochaine édition des Escapades. Disons que pour les Escapades, on est quand même sur une programmation légèrement différente de la programmation qu'on propose. Au théâtre, parce que déjà au théâtre on est assis, on est quand même plus sur des ambiances intimistes aussi. Là pour les Escapades, on est plutôt à la recherche d'une musique festive et qui
ça va bouger dans le public ce soir et demain.
C'est quand même ça l'idée, oui.
Ouais, je voulais dire en fait la ligne directrice de cette édition, ça a été vraiment du gros spectacle quand même, beaucoup de musiciens sur le plateau, il faut que ça groove et que le public ait envie de se mettre debout et qu'il y ait de l'ambiance, quoi. Voilà. Il faut que ça soit ultra festif.
Et puis quand on a écouté Roufi, on se rend compte aussi qu'il y a de l'énergie qui va arriver et ce soir ça devrait déménager, ça devrait aller bien. Et puis c'est bien de faire parler aussi les musiciens parce que très souvent ils parlent avec leurs instruments et bon, et des fois ils véhiculent aussi des idées qui peuvent être intéressantes. Donc j'ai bien retenu l'idée, essayer de boire à l'œil, manger à l'œil et peut-être trouver une fille.
J'ai commencé la musique pour ça, musique, hein, voilà. Je cache pas.
C'est peut-être l'explication effectivement de toutes les vocations musicales ou artistiques, c'est une bonne chose. Ce soir c'est donc la fête, Elodie, chez vous avec ces deux groupes, hein, BCUC et puis Ceux qui marchent debout.
J'espère, oui, enfin on a tout fait pour, on a envie de ça, enfin, et puis je pense que le public aussi on en a envie, donc quand on a vu et puis au-delà de la fête, c'est vraiment l'idée du rassemblement. Vraiment, on l'a vécu l'année dernière, puisque c'était la première fois qu'on s'installait sur ce parking. On a vu que les gens étaient contents d'être ensemble et qu'ils étaient contents d'être rassemblés, en fait. Et on l'a revécu à la fête de la musique avec effectivement tout le plateau régional et aussi Théo Lawrence, Sandy Hart et Amado et Mariam. Et ces deux jours d'escapade, c'est ça, c'est vraiment c'est l'été, il fait beau, il fait chaud, on a quand même une super vue sur la montagne, il y a du bon son, il y a des bons musiciens, il y a de la bonne bière, voilà. Il y a tout pour qu'on passe un vrai bon moment ensemble. Et je pense que ce qui est important, c'est aussi d'amener une fois de plus les gens à découvrir des groupes qu'ils ne connaissent pas forcément. Bon, c'est vrai que Ceux qui marchent debout, c'est quand même très... pas forcément connu du très très grand public, mais quand même vous avez...
En fait, on n'a jamais été connu, c'est ce truc assez étonnant. On a fait beaucoup de gros concerts.
Ça c'est jusqu'à aujourd'hui. Hein.
Non, mais mais ils ont quelques kilomètres au compteur et pas mal de concerts
évidemment.
Aussi. Mais voilà, on trouve que c'est intéressant que les gens viennent nous voir pour l'ambiance et puis finalement qu'ils écoutent pas des choses qu'ils ont vues, voilà. Qui découvrent des artistes qui ont effectivement une vraie qualité musicale, une qualité scénique, qui ont aussi parfois un message, même si je suis pas sûre qu'on comprenne tous les messages ce soir, c'est pas grave. Mais voilà, qu'on soit aussi à l'endroit de l'exigence artistique au sens noble du terme, et en même temps d'une très grande ouverture pour un public le plus large possible.
On est en phase avec notre radio, vous le savez bien, Fréquence Mistral, qui joue sur cette découverte et sur la volonté aussi de partager des cultures musicales différentes, et en même temps d'une ouverture et un respect de toutes ces musiques. Très bon concert ce soir, Roufi, avec vos amis.
Merci François. Hein,
ça va être certainement un grand moment. Donc
on t'attend devant la scène.
Nous
en train
aussi,
de
on vous attend tous ensemble. Et puis simplement dire aussi que ceux qui marchent debout, ça n'a rien à voir avec un groupuscule politique, c'est ça. Hein, qui
c'est des blagues de saxophonistes.
Je m'en
doute
quand aussi.
Oui, comme vous savez, évidemment, Ceux qui marchent debout, on a un rapport avec En Marche. Il prend une espèce de ton comme ça, et les gens se font... Et en fait, non.
Vous étiez là avant. Vous avez quel âge au compteur, justement, Ceux qui marchent debout?
Ça fait 26 ans qu'on fait ça.
Voilà, donc vous étiez là avant, effectivement. Oui, merci beaucoup, Elodie.
Moi, je voudrais juste rajouter une chose, parce qu'on a parlé de la programmation, on a parlé du contenu, on a parlé... Voilà, le maire a parlé aussi. Mais je pense que c'est vraiment important de dire que ce festival, il existe aussi grâce à des bénévoles. Voilà, qui sont là à chaque fois, qui ne comptent pas ni le temps ni l'énergie, voilà, et qui font un boulot formidable et sans lesquels on n'arriverait pas à faire ça aussi bien en tout cas, voilà. ça c'est sûr.
Et puis vous avez aussi des techniciens hors pair ici même, on va les saluer, et puis votre équipe aussi, et notamment Marie et Elodie qui nous ont accueillis ici même pour pouvoir faire ce plateau radio. Merci aussi Ronan d'avoir été notre invité, d'avoir parlé de votre dynamique, en tout cas pour la sélection de la musique. Fred Martin aussi, merci d'avoir été notre invité et d'avoir une action culturelle ici sur le territoire depuis déjà tellement d'années et de continuer encore pour encore tellement d'années. Merci à tous. Ben on va se quitter tout simplement en écoutant justement ceux qui marchent debout et qui vont nous demander de pas être timide. Ça sert à rien d'être timide. Donc on est d'accord. C'est Don't Be Shy. Je remercie aussi mon équipe à côté, Vincent et puis Manu qui ont assuré comme d'habitude. Dans un instant, tout de suite après ceux qui marchent debout et quelques minutes peut-être, les infos nationales et internationales, et vous saurez peut-être si la France est qualifiée ou non. Merci à tous, ceux qui marchent debout, Don't Be Shy, à bientôt.